politique Europe 1.
Alexis Delafontaine.
Merci à vous d'avoir écouté Europe 1 et moi je vous dis à la semaine prochaine.
22h au carillon d'Europe 1, le journal du soir vous est présenté par Maëlle Laurent. Bonsoir Maëlle.
Bonsoir Valérie et bonsoir à tous.
Europe 1 nuit week-end. Maëlle Laurent.
Et on va revenir très largement dans ce journal sur la situation toujours aussi tendue au Proche-Orient. Israël a poursuivi aujourd'hui ses attaques contre des sites militaires et nucléaires iraniens. On rejoindra notre correspondant en Israël dès le début de cette édition. Une offensive israélienne en Iran qui vient directement percuter l'agenda diplomatique d'Emmanuel Macron. Le président français contraint de reporter la conférence qu'il voulait organiser en vue de reconnaître un État palestinien. Les conséquences diplomatiques pour le chef de l'État de la guerre Israël-Iran. On en parlera dans ce journal. Et puis juste après avec Martin Garagnon, porte-parole du groupe Ensemble pour la République. Il est l'invité d'Europe 1 du week-end. Et puis aux États-Unis, une élue locale de l'État du Minnesota et son mari tués aujourd'hui, un autre couple grièvement blessé. On fera le point avec notre correspondant aux États-Unis. L'armée israélienne frappera tous les sites et les cibles du régime des ayatollahs en Iran. Déclaration ce samedi du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui s'est félicité d'avoir déjà réussi à porter un véritable coup au programme nucléaire iranien. La correspondance de Frédéric Simon depuis Tel Aviv.
Alors incontestablement un coup a été porté, mais il est difficile à l'heure qu'il est d'en évaluer l'ampleur. On sait que plusieurs centrales nucléaires, notamment celles de Natanz et d'Isfahan, ont été sérieusement endommagées, voire partiellement détruites. Mais les installations d'enrichissement d'uranium sont pour la plupart profondément enfouies sous terre et il est peu probable que l'aviation israélienne dispose des armements nécessaires à les atteindre. Un point faible qu'Israël a cherché à compenser en tuant plusieurs scientifiques spécialisés. Leur mort pourrait porter un coup sévère aux avancées de l'Iran vers l'acquisition de la bombe nucléaire. Le haut commandement militaire iranien, quant à lui, était presque entièrement décapité puisqu'on signale la mort du numéro 1 des gardiens de la révolution, de la plupart des généraux d'aviation et du chef d'état-major de l'armée. Un autre objectif central de l'offensive israélienne, l'arsenal de missiles balistiques dont dispose l'Iran, il aurait été en partie détruit, même si Téhéran dispose encore de nombreux projectiles capables d'atteindre le territoire israélien.
Et Frédéric, côté israélien justement, de nouvelles alertes seraient en cours ce soir.
Alors on s'attend en Israël à ce que les tirs de missiles iraniens reprennent dans la soirée et au cours de la nuit. L'armée israélienne intensifie ses frappes en ce moment même, probablement pour perturber cette nouvelle contre-offensive iranienne. Depuis hier soir, l'Iran a lancé 200 missiles environ. Selon l'armée, plus de 90% ont été interceptés par la défense antiaérienne. Un dispositif efficace, mais qui peut être submergé lorsqu'il doit faire face à de telles quantités de projectiles. C'est ce qui s'est passé hier soir et ce matin, puisque plusieurs immeubles d'habitation ont été presque entièrement détruits dans la banlieue de Tel Aviv. Le bilan humain est lourd. 2 personnes tuées ce matin, une autre hier soir et des dizaines de blessés, dont certains dans un état grave.
Frédéric Simon, le correspondant d'Europe 1 en Israël. L'ambassadeur d'Israël en France, justement, Joshua Zarka, était tout à l'heure l'invité d'Europe 1 Soir Week-end et il n'a pas manqué de dénoncer la différence de stratégie entre l'offensive israélienne et la riposte iranienne. Il était au micro de Pascal de la Tour du Pin. On l'écoute.
Nous serons sûrs que l'Iran ne pourra pas reprendre son programme et ne pourra pas le remettre sur pied dans une courte période. Nous nous arrêterons, mais bien sûr, ça dépend aussi de la réaction de l'Iran. Parce que on a vu cette nuit, l'Iran nous a attaqués et a attaqué nos civils. Nous, ce que nous avions fait, c'était attaquer spécifiquement, nous avons décapité, disons, les militaires iraniens et nous avons attaqué les infrastructures militaires. Ce qu'ont fait les Iraniens, en revanche, c'est d'attaquer le plus de civils possible pour tuer le plus d'Israéliens possible. Ce qui va nous obliger à changer un peu de tactique. J'imagine que cette nuit va être une nuit difficile pour les Iraniens. Pas pour le peuple iranien, mais pour le régime iranien.
L'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, invité tout à l'heure d'Europe 1 Soir Week-end. A noter également que le président iranien a opposé ce soir une fin de non-recevoir à Emmanuel Macron. Le chef de l'État avait invité son homologue à revenir rapidement à la table des négociations sur son programme nucléaire, alors que des pourparlers devraient avoir lieu demain à Oman avec les États-Unis. Mais l'Iran refuse formellement de négocier si Israël poursuit ses attaques. Et puis autre coup dur pour Emmanuel Macron sur le plan diplomatique. Le président avait prévu de se rendre mercredi à New York à l'ONU pour participer à une conférence consacrée à la reconnaissance de la Palestine, conférence qui devait être coprésidée par la France et l'Arabie Saoudite, mais elle n'aura finalement pas lieu au regard des événements entre Israël et l'Iran. Les conséquences diplomatiques pour le chef de l'État de cette guerre Israël-Iran, on y revient dans moins de 10 minutes avec Martin Garagnon, porte-parole du groupe Ensemble pour la République, il est l'invité d'Europe 1 New Weekend. Emmanuel Macron qui doit donc reporter son déplacement à New York, mais qui a maintenu en revanche son déplacement au Canada en début de semaine pour le sommet sommet du G7, mais aussi un déplacement au Groenland où il est attendu dès demain matin. Après le sommet des océans à Nice, le chef de l'État est bien décidé à tenter de marquer les esprits sur la fonte des glaciers. Jacques Serret, pour le président, l'enjeu est aussi de répondre à Donald Trump.
Oui, après avoir adressé ce message ces derniers jours à Nice...
Je le dis ici avec force, les abysses ne sont pas à vendre. Pas plus que le Groenland n'est à prendre. Pas plus que l'Antarctique ou la haute mer ne sont à vendre.
Emmanuel Macron va s'afficher demain aux côtés du Premier ministre groenlandais et de la Première ministre danoise. Une manière on ne peut plus claire de soutenir la souveraineté de ce pays, du royaume du Danemark. Il s'agit de démontrer par sa présence la solidarité européenne, décrypte l'un de ses proches. Sa venue est une réaffirmation des principes de la Charte des Nations Unies, poursuit le même. Le président y rappellera que la France soutient l'intégrité territoriale et l'inviolabilité des frontières du Groenland. Un signal envoyé à Donald Trump qui convoite très sérieusement ce qui constitue la plus grande île du monde. Pour autant, l'Élysée indique qu'il ne faut pas y voir une dimension personnelle avec le locataire de la Maison Blanche. Et pour cause, Emmanuel Macron retrouvera Donald Trump demain soir au Canada pour participer au sommet du G7.
Et en tout cas, si les États-Unis menacent de prendre possession du Groenland, s'il intéresse aussi la Chine, c'est aussi, Johan Madec, que ce vaste territoire dispose de ressources qui sont particulièrement convoitées.
Et oui, l'île dispose notamment d'un souterrain très riche en terres rares, pour l'instant presque non exploitées, et qui ont l'avantage pour les Occidentaux de se trouver en dehors de la sphère d'influence de la Chine, comme l'explique Patrick Martin.
How I remember. sommes en direct de Toulouse pour le festival Rio Loco. Nous attendons ce concert de Youssoundour qui va démarrer dans un instant. Les musiciens sont en train de monter sur scène. Le public est là malgré les quelques gouttes de pluie. C'est complètement magique. On est directement sur la scène de cette magnifique scène Pont-Neuf ici à Toulouse.
La politique ou c'est encore trop tôt pour le dire ?
Alors Tim Walz, le gouverneur du Minnesota et on s'en souvient l'ancien colistier de Kamala Harris, n'a pas véritablement employé ces mots, mais il n'en était quand même pas loin, c'est-à-dire que pour lui, il s'agit effectivement d'un attentat politique. On est évidemment tous extrêmement prudents, on attend d'en savoir un petit peu plus sur l'identité du tueur, sur ses motivations, mais en tout état de cause, le choix à la fois de la date, des événements, toute cette concordance, si vous voulez, d'événements, fait que malheureusement, il y a peu de chances qu'effectivement ce soit autre chose qu'un crime politique.
Vous disiez, c'est une journée très particulière hein, aux États-Unis. C'est aussi le jour où beaucoup d'Américains vont manifester contre la politique de Donald Trump.
Oui, à côté de chez moi, il y a d'énormes manifestations avec des pancartes « No Kings ». « No Kings », en fait, pas de roi, ça fait référence dans l'histoire américaine aux accusations qui étaient déjà portées à l'époque contre George Washington, dont on suspectait qu'il voulait remplacer le roi d'Angleterre. Donc c'est vraiment quelque chose de très prégnant dans la politique américaine. C'est vraiment le refus de tout mandat autoritaire ou dictatorial, et c'est la réaffirmation du principe démocratique tel que édicté par les pères fondateurs. Et effectivement, beaucoup de gens, un peu de toutes les origines, de tous les âges, qui manifestent pacifiquement, en tout cas à côté de chez moi, c'est pacifique, avec des pancartes en réclamant la fin de l'autoritarisme, il n'y a pas de roi aux États-Unis, et elles sont particulièrement suivies avec d'une manière assez bon enfant, d'ailleurs, jusqu'à présent.
Mais il y a des craintes de violence de la part des forces de l'ordre contre ces manifestants ?
Il y a toujours des craintes des deux côtés. Il peut y avoir des débordements à la fois par des éléments un peu incontrôlés qui voudraient profiter de ces manifestations pour créer le désordre. Et puis du côté de la police, un excès de zèle. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, mais ici, en tout cas sur la côte Est, il est un peu plus de 4 heures de l'après-midi. Donc ça reste encore bon enfant. C'est malheureusement bien d'expérience, en particulier en Europe, que souvent les débordements arrivent à la nuit tombée. Pour l'instant, ça se passe très bien et ce sont des manifestations bon enfant.
Et il y a cette fameuse parade militaire hein, dont Donald Trump rêvait, hein, qui va se tenir tout à l'heure aussi hein, chez vous à Washington. Est-ce que les Américains l'attendent avec impatience ? Est-ce que c'est un grand moment comme celui qu'a vécu d'ailleurs Donald Trump quand il a assisté au 14 juillet à Paris ?
C'est un peu un objet politique non identifié ce qui est en train de se passer, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que les Américains n'ont pas l'habitude des parades militaires comme nous on l'a pour le 14 juillet, par exemple. Donc pour eux, c'est un machin un peu indéfini. Beaucoup craignent qu'il y ait une tentative, enfin c'est même pas une tentative, une récupération de la part de Donald Trump, qui de toute façon n'en a pas fait mystère. Reste à savoir si l'objectif de célébrer, d'honorer l'armée américaine, dont les premiers éléments sont d'ailleurs antérieurs hein, à la déclaration d'indépendance, va pouvoir, c'est le cas des Marines par exemple, va pouvoir perdurer au-delà de Trump, si c'est une fête, une célébration qui va entrer dans les mœurs, ou si finalement elle sera interrompue lors d'une prochaine alternance.
Mais le côté très fier hein, des Américains, il ne ressort pas là au travers d'une telle parade.
Mais c'est tout le problème, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de tradition de défilé ici et qu'on célèbre perpétuellement, continuellement, on est très fiers de son armée ici aux États-Unis, donc il n'y a pas besoin de parade pour la célébrer, si vous voulez. Les vétérans en particulier sont extrêmement admirés, aidés, secondés ici, c'est vraiment un phénomène très fort, donc il n'y a pas besoin de parade. Et le problème qui se pose, c'est que est-ce que l'on se limite à célébrer l'armée américaine ou est-ce qu'on célèbre un machin trumpiste, et donc la si vous voulez le balancier aussi un petit peu entre les deux. Je pense que c'est sur le temps long qu'on arrivera à savoir d'abord si la parade perdure au fil des années, si effectivement elle devient une forme de tradition américaine ou si finalement elle ne le sera pas. Mais il n'y a pas besoin de parade dans ce pays pour célébrer l'armée. L'armée est extrêmement populaire aux États-Unis et les vétérans sont vraiment admirés et aimés.
Et pour revenir sur cet assassinat dont on parlait au début de votre intervention, est-ce que Donald Trump, je sais qu'il a fait une première réaction, est-ce qu'il a l'impression que ça va gâcher sa fête, hein, c'est le jour aussi de son anniversaire, c'est 79 ans, est-ce que vous pensez qu'il va réagir fortement parce que c'est un événement très important comme vous l'avez souligné, ou est-ce qu'il va juste se contenter de dire c'est pas bien et il fallait pas le faire comment il va prendre les choses, lui, selon vous ?
Alors d'abord, il a réagi très vite sur les réseaux sociaux pour condamner l'horreur de l'assassinat de Melissa Hortman. Donc la réaction a été très rapide. Il a salué sa mémoire. Il a honoré l'État du Minnesota. Donc il a réagi très vite pour couper court à toute polémique. Maintenant, est-ce qu'il va aller plus loin ? Est-ce que dans le cadre de cette journée festive, il prendra la parole de nouveau pour condamner cet attentat ? On ne sait pas. En tout cas, les deux événements sont évidemment liés, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas ne pas penser lors de la première édition de cette parade à l'assassinat, effectivement, de Melissa Hortman. Maintenant, reste à savoir, encore une fois, on est très prudent ici sur les motivations du tueur, qu'on n'a toujours pas réussi à appréhender. Donc tout le monde est extrêmement prudent, et mis à part Tim Walz, le gouverneur du Minnesota, qui s'était un peu avancé, pour l'instant on est plutôt sur les honneurs rendus à Melissa Hortman plutôt qu'à une volonté de créer une polémique politique, en tout cas à ce stade, aujourd'hui, en ce moment.
Merci mille fois, Olivier Piton, d'avoir été en direct sur France Info. Votre dernier livre, Kamala Harris, la conquérante, est paru aux éditions Plomb.
France Info, 21h minuit, Hélène Zélani.
Et dans un instant, Fabrice Dalméda se penche sur les relations entre Israël et l'Iran dans l'info de l'histoire. Mais d'abord, il est 21h22, le fil info, Manon Lombard-Brunel.
La population israélienne n'a plus à se mettre à l'abri alors que l'Iran annonce à l'instant commencer à tirer des missiles contre Israël. Tension toujours très forte ce soir entre les deux pays après cette deuxième journée de frappe israélienne sur les infrastructures iraniennes. L'armée israélienne affirme avoir touché une installation souterraine de lancement de missiles dans l'ouest de l'Iran. Benjamin Netanyahou réunit en ce moment en urgence son cabinet de sécurité. Aux États-Unis, un homme toujours activement recherché, soupçonné d'avoir abattu par balle à leur domicile une élue démocrate du Minnesota. Sota et son mari. Un autre élu a lui aussi été blessé alors que le pays est le théâtre depuis le début de la semaine de très fortes tensions politiques. Plusieurs centaines de manifestations d'opposants à la politique de Donald Trump sont organisées ce soir un peu partout dans le pays. Manifestations alors que le président américain participera lui à une grande parade militaire à Washington pour les 250 ans de l'armée américaine. En France, deux personnes en garde à vue après les tirs ce matin dans un camp de migrants à Laune-Plage dans le Nord. Tous les deux ont été interpellés juste après cette fusillade qui a éclaté vers 10h à côté d'un point de distribution de nourriture. Une personne a été tuée et 5 autres blessés, dont 2 grièvement. Une enquête pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée a été ouverte. Et puis en rugby, la suite ce soir des quarts de finale du top 14. Match de barrage entre Toulon et Castres. Les Toulonnais qui mènent pour l'instant de 2 petits points, 12 à 10, à noter toujours en rugby. Perpignan s'est assuré tout à l'heure de se maintenir en top 14. Ils se sont imposés 11 à 13 contre Grenoble.
France Info.
L'info de l'histoire avec Fabrice Dalméda. Le conflit entre Israël et l'Iran. L'État hébreu procède à de nouvelles frappes. Téhéran brûlera si le régime tire de nouveaux missiles, a déclaré ce matin le ministre israélien de la Défense. La tension est à son maximum. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir Renaud.
Avec vous, nous allons essayer donc de comprendre comment Israël et l'Iran en sont venus à ce degré de conflictualité.
Oui, c'est vrai que pour bien comprendre la complexité de la relation entre ces deux États, il faut commencer cette histoire par un épisode qui est très largement oublié, qui se situe au cœur de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1942-1943. Des Polonais, qui avaient trouvé refuge en Union soviétique, ont été ensuite conduits à passer la frontière vers l'Iran, parmi eux beaucoup de juifs et notamment des enfants, quelques centaines d'enfants, qui vont être aussitôt pris en charge par la communauté juive de Téhéran. C'est une vieille communauté juive dans le monde oriental. Elle remonte, hein, pour ceux qui ont lu ce texte, la Bible, jusqu'à cette époque où il y a le fameux...
Can fix me. What if I said I'm trying to save your love from dying? Baby, I'm too far gone. Don't wanna see you crying. RTL de Pop Rock Party.
By Laurent.
See, I reckon you're about an 8 or a 9. Maybe even 9 and a half in 4 beers time. That blue top shop top you've got on is nice. Bit too much fake tan, no, but yeah, you score high. But there's just one little thing that's really, 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 really annoying me about you, you see. Yeah, yeah, like I said, you are really fit. But my gosh, don't you just know it?
I'm not trying to fool you, even though I would like to. I think you are really fit, you're fit, but my gosh, don't you know it?
So when I looked at you standing there with your hoard, I was waiting in the queue looking at the board, wondering whether to have a burger or chips, or what the shrapnel in my back pocket could afford. When I noticed out the corner of my eye, looking toward my direction, your eyes locked on my course. I couldn't concentrate on what I wanted to order, which lost me my place in the queue I waited for, yeah.
I'm not trying to fool you, even though I would like to. I think you are really fit, you're fit, but my gosh, don't you know it?
Whoa.
Leave it out.
Are you smoking something?
Mike, just leave it, just leave it.
We cannot have that behaviour in this establishment.
It's not worth it, Mike. Just leave it.
Don't touch me.
It's not worth it.
Don't touch me.
Leave it out.
Don't, look, I'm alright, don't touch me. For a while there I was thinking, yeah, but what if? Picturing myself pulling with bare white hot wit, snaring you as you were standing there opposite. Whether or not you knew it, I swear you didn't tick. And when that bloke in the white behind us lot queuing was clocking onto you too, yeah, I had to admit that, yeah, yeah, you are fit and yeah, I do want it, but I stopped sharking a minute to get chips and drinks.
I'm not trying to fool you, even though I would like to. I think you are really fit, you're fit, but my gosh, don't you know it?
Wait, and just as you started to make your big advance with the milkshake and that little donut in hand, I was like, nah, I can't even know you look grand. But you look sharp there, smiling hard, suggesting and gleaming away with your hearty, hearty looking tan. But I admit the next bit was spanners my plan. You walked towards my path, but you just brushed right past and into the arms of that white shirted man.
I'm not trying to fool you, even though I would like to. I think you are really fit, you're fit, but my gosh, don't you know it?
What do I give up? I got a girlfriend anyway.
Oi, whoa, we're
all
had a
bit
drink,
drunk,
mate.
We've had a few, fair play. I got this Stella I bombed from that last cafe. This night's not even begun, yes, yes, oh yay. I did fancy you a bit though, yeah, I must say. I would rather I hadn't knocked myself on display. But this is just another case of female stopping play in an otherwise total result of a holiday.
I'm not trying to fool you, even though I would like to. I think you are really fit, you're fit, but my gosh, don't you know it?
Away.
le samedi soir.
100% Let's Dance.
Let's Dance. Ici, tous les samedis soirs.
Right. The first step is the longest, when the wind is blowing strong.
Ici, le samedi soir, 100% Let's Dance.
For all the bitches out there, shaking their ass like they just don't care. Ooh, oh, I, they just don't care.
Et attention,
c'est de. On a...
Suggérez quand vous étiez au.
à démocratiser l'Iran.
Folle et je
le chant de
tout le jazz est ici.
Ville étrangère,
là oui c'est bien.
De gare du Nord,
et... il faut pas t'attacher.
Promets-moi.
Les experts ont la parole.
Puisque Craig Federighi, le papa d'Ayo.
Ils sont dans les starting blocks.
On crée quelque chose de la très cinéma.
Et faut le voir, faut pas y aller juste en vacances de trop.
Dans la communauté qui me suit, que y a de.
Un père musicien également, et il est très doué, il est très talentueux, et je crois qu'il n'a pas fait le choix également de. Quel est son style ? Il avance, il chante, il joue, et c'est hyper contemporain, c'est hyper moderne. J'aime beaucoup ce garçon que je connais pas, mais qui me. J'aime bien.
Yamé chante Shoot dans la balade de Léonie Pernet sur Inter.
Ne prends pas la tête. Je me casse d'ici, j'emporte ma verre. C'est elle ma reine. Nos deux c'est toxique pour la vie. Ça sera toi et moi dans la reine. Entre le love et la haine. T'es comme toi, j'en suis ma paire de vue. Mais est-ce que je finirai pas en perdre ma vue? Oui, je me dis que c'est pour l'inspire. J'allume mes cordes, le chromisme. Je voudrais chanter toute ma vie. Ah ouais. Comment j'arrête? Comment j'arrête? Comment j'arrête? Comment c'est sûr j'arrête ce cali? C'est qu'une balle dans la tête. Balle dans la tête. Balle dans la tête. Balle dans la tête. Ma gueule s'en fout.
Sa santé se fragilise. Donc une dernière fois je me carbonise.
Chou, 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 chou.
Les aigus de Yamé, c'est magnifique. Il a presque une voix d'enfant à la fin.
Et oui, c'est les aigus. Et puis, surtout, on lui souhaite de trouver le chemin de la paix aussi, parce que c'est un morceau qui parle des addictions. Et oui. Je crois que c'est la parole se libère. J'avais fait un morceau qui s'appelait Mon amour, bien tu sûr. Vois trop, il y a quelques années. C'est un peu la version disruptive.
Vous avez raconté vos addictions de nuit. Vous, la DJ que vous êtes.
Ça dépasse une histoire de DJ ou pas DJ. C'est un tempérament que j'avais qui précédait ma vie de noctambule, à vrai dire.
En tout cas, vous allez mieux.
Ah ben moi, oui. Oui, je vais mieux. Et puis, c'est ce que je souhaite à tous. Mais il y a vraiment quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'œuvres, de chansons, de films sur la question. La parole se libère vraiment sur le sujet. Parce que les gens étouffent dans leurs addictions et je trouve que c'est bien qu'on en parle davantage.
On va vous écouter encore chanter, vous voulez bien, qu'on écoute L'Horizon Ose, chanson extraite de Poèmes pulvérisés, Léonie Pernet, votre troisième disque. Vous vous retournez sur une histoire qui a eu lieu avec une femme, une histoire d'amour, et vous dites un septennat d'amour au singulier, au féminin, un septennat d'amour irrégulier, et puis soudain. C'est pas une chanson triste?
Non, c'est pas une chanson triste. Après, c'est pas une chanson par pudeur et par respect que j'ai envie de commenter, si vous le voulez bien.
Mais vous avez eu envie d'écrire ce souvenir.
J'ai eu besoin, bien sûr. J'ai eu besoin de l'écrire, de poser des mots et de l'adresser.
Demi-tour, comme une mélodie qu'on enfreint. septennat d'amour, au singulier, au féminin. Un septennat d'amour, au Bervilliers, on est témoin.
Merci d'être venu dans la balade, Léonie Pernet.
Merci beaucoup.
On vous entend souvent, je ne vous connaissais pas, alors je suis content de vous avoir rencontré. Et puis de dire aussi que vous êtes en tournée en ce moment. On met les dates sur la page de la balade sur franceinter.fr. Je signale entre autres que vous serez au musée Louvre-Lens le 20 juin.
Oui, c'est vrai, pour un projet particulier, c'est pour jouer l'album Ziggy Stardust, qui m'avait été commandé par le Printemps de Bourges. J'avais joué à Avignon ensuite et au festival et j'avais pas prévu forcément de le rejouer, mais je l'ai quand même fait parce que ça a été demandé quelques fois et j'ai du mal à dire non quand on me demande gentiment.
<C'est vrai. rire> Intéressant à savoir. Le 31 mars 2026, où sera Léonie Pernet ?
Eh bien, pour son plus grand plaisir, à l'Olympia.
Avec combien de musiciens ?
Ça, je ne le dévoile pas encore parce que mon tourneur va s'arracher les cheveux.
Il y a des surprises.
Bien sûr qu'il y aura des surprises. Bien sûr qu'il y a des surprises. On est trois sur scène tout le temps. Et puis là, on sera peut-être un petit peu plus nombreux pour cette date-là.
Que puis-je vous souhaiter, Léonie Pernet, en cette fin de balade ?
Eh bien, la paix, un peu de joie, beaucoup de joie. Et ça ira bien.
Et de pulvériser des poèmes sur tout le monde. Anne Weinfeld a réalisé cette émission, la dernière balade de la saison, puisque la semaine prochaine, ce sera le 21 juin, et il y aura des concerts du Hellfest à 17h sur Inter. Fanny Leroy a préparé l'émission avec moi toute l'année. Valentine Chedebois a programmé la musique. Il y avait aujourd'hui Thomas Allard à la technique. Take off your clothes, fall into